trois petites. J'ai une précision sur un chiffre. Le premier chiffre que vous avez cité, des 158 milliards de consommation, donc c'est ce qui reste en France.
La consommation domestique, oui.
D'accord, c'est-à-dire que c'est véritablement, c'est pas, par exemple, quand on voit les groupes internationaux chinois ou américains sur les limités, ce qui repart dans c'est vraiment ce qui reste.
C'est vraiment la consommation, et c'est celle qui est prise en compte pour évaluer le PIB. Donc c'est. Si vous devenez un aficionado de tourisme, vous avez dans mon lycée, c'est la T2, la consommation T2. Qui prend compte également le transport.
Et deux petites questions. La première, on voit assez peu de publicité, parce que c'est un peu ce qu'on. Je fais un parallèle entre ce que vous disiez tout à l'heure sur le tourisme, les échanges touristiques entre nous et les autres pays. On voit assez peu de publicité de pays pour leur tourisme, pour venir, pour que les Français viennent, deviennent des touristes à l'étranger. On voit assez peu. Est-ce que c'est du protectionnisme de la part du milieu touristique en France de dire surtout pas, on a nos 82% de Français qui voyagent. Est-ce qu'il y a un protectionnisme? Et j'ai une autre question sur l'enjeu des seniors. On a dit ce matin effectivement que. On avait notamment un allongement de la durée de notre retraite, si on en est. Et donc, les seniors sont des gens qui notamment actuellement, ont des plutôt budgétairement, sont assez intéressants et ils peuvent voyager. Est-ce qu'il y a un vrai enjeu aussi au niveau des seniors qui est pris en compte dans votre travail sur la France?
Alors sur la première question, j'ai pas très bien compris, mais enfin bon, en tout cas,
je la reformule très simplement. Moi, j'ai l'impression qu'on voit peu de publicité de pays étrangers pour dire venez, venez dans notre pays pour faire du tourisme.
C'est marrant parce qu'hier, on disait un peu pas l'inverse. Moi,
je voudrais
que la France ne soit pas assez agressive pour effectivement faire de la publicité à l'étranger pour faire venir en France. Il me semble qu'il est dans le métro, c'est une bonne pub pour venir à New York, etc.
Non, peut-être à Paris, il y a peut-être à Paris. Non, mais c'était une question et une impression. Voilà.
Mais globalement, non. Enfin, globalement, à l'échelle mondiale, on est plutôt perçu comme étant des mollassons en termes de promotion de notre tourisme. Enfin, on a beaucoup plus d'acteurs qui mettent plus. Plus d'argent en promotion pour stimuler la venue touristique. Alors évidemment, comme vous avez 80% des Français qui restent en France, peut-être qu'ils investissent davantage sur le marché allemand, sur le marché britannique. Parfois aussi, ils ont la capacité à faire du co-branding avec d'autres vers le transport. C'est peut-être moins facile en France. Mais en tout cas, juste un chiffre. Il y avait une étude qui avait été faite à l'époque par la Cour des comptes, je crois, où l'Institution des Finances, qui montrait que le tourisme en France, les budgets touristiques en France portés par l'ensemble des acteurs publics, c'était de l'ordre de 1,5 milliard. Donc 1,5 milliard, Atout France, qui est censée être la plateforme d'agrégation des moyens de promotion, nous on va passer 35 millions. Donc vous voyez un peu le degré de dispersion. Quoi. Donc, je disais tout à l'heure, espérons que la loi NOTRe et tout le reste va permettre un peu de hiérarchiser. Donc, globalement, il y a beaucoup d'argent qui est investi en promotion, mais il y a une très forte dispersion qui nuit à l'efficacité globale. Et sur les seniors, oui, vous avez raison, c'est un enjeu important sur lesquels on est très en retard et sur lesquels on a des offres qui sont peut-être moins adaptées que d'autres destinations, notamment les destinations espagnoles. Mais il y a une prise de conscience assez forte. Des opérateurs touristiques, bon, sachant que ce n'est pas évident, puisque effectivement les fonciers sur les espaces touristiques sont déjà très occupés, donc on est plutôt dans des logiques de restructuration, reformatage des offres existantes, ça prend du temps, ça coûte cher, donc c'est loin d'être évident. Mais bon, le développement Airbnb aussi est lié à la fréquentation croissante des seniors. Il y a aussi une statistique qui m'a. Que j'ai vu là récemment, qui n'est pas surprenante, mais l'année dernière, les immatriculations de camping-car en France ont augmenté de 12%. Donc c'est aussi une filière qui est en fort développement.
Sophie Renard, du département paralympique. Je voulais rebondir sur la question des seniors. Parce que c'est vrai qu'on présente toujours ça comme un gisement en fait, de potentialité pour le tourisme. avec les affiliés qui arrivent. Et simplement, par rapport au touriste français, moi ça m'interroge, parce qu'en fait, dans 10 ans, on va avoir des premiers baby boomers qui ont 80 ans, on va aussi avoir des gens qui vieillissent, qui ont des carrières de plus en plus heurtées, donc des retraites qui vont baisser, alors jusqu'à présent, les retraites, elles ont plutôt augmenté. Donc là, on avait des jeunes seniors qui étaient à la retraite à 60 ans, avec du pouvoir d'achat et une envie de découvrir la France, en tourisme de proximité. Est-ce que dans 10 ans, on ne va pas avoir des personnes beaucoup plus âgées, mais qui sont pas tous en mobilité sur une place, mais chez elles, mais pas forcément à bouger, et avec moins de moyens, parce que plus âgées, plus il y a de femmes, et plus on les retraite, c'est plus qu'elles disent. Voilà, peut-être que par rapport à l'étranger, il y a un jugement des seniors, parce que c'est pas une structure d'âge, mais par rapport à la France, je m'interroge.
Vous avez parfaitement raison, donc je vous encourage à aller voir les études qu'on a faites sur le sujet. C'est vrai qu'on a globalement on a un âge d'or pour les 15 prochaines années. Ça risque de changer effectivement dans les années qui suivent. Parce qu'effectivement, il y a ce phénomène de moyens économiques qui risque d'être un peu plus chahuté à l'âge de la retraite. Donc là, mais les 15 prochaines années, il y a vraiment de quoi en profiter. Bon, quand on dit seniors, il y a tous les seniors, il y a ceux qui sont presque déjà encore plus actifs, il y a les vrais seniors, et puis ensuite vous avez le quatrième âge.
Et puis vous avez une baisse aussi des retraites individuelles, mais une augmentation des retraites par couple, donc c'est compliqué aussi, ouais. Parce qu'en réalité, les retraites des femmes augmentent, puisqu'elles travaillent de plus en plus. Donc du coup, on mélange toujours la retraite individuelle et le revenu du couple. Ce qui compte, c'est le revenu du couple. Enfin, réalité. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Et deuxième chose, il y avait un chiffre qui est intéressant, c'est 48% des gens qui prennent leur retraite rêvent d'aller habiter dans leur région principale de vacances. Donc un des grands enjeux aujourd'hui, c'est effectivement de se dire qu'une grande partie des retraités rêvent d'aller à finir leur vie de 20 ans là où ils ont été en vacances, ou là où ils sont originaires. Les choses se chevauchent d'ailleurs souvent. Donc c'est dire qu'il y a aussi toute une gestion des migrations de la retraite, notamment dans les milieux populaires, qui n'est absolument pas pris en compte. Parce que par exemple, Paris perd à peu près 50 000 habitants par an, ils ne les perdent pas. Ce sont des gens qui prennent leur retraite et qui vont s'installer dans la région, pas forcément dans leur résidence secondaire, mais en tout cas dans leur région de résidence secondaire, dans les populations aisées. On n'a pas encore commencé la mobilité des milieux populaires. Par exemple, le type qui achève à Paris avec 3 chambres, il a campé toute sa vie en Bretagne, il ne va quand même pas aller sous la tente pour la retraite, donc il est en train de s'installer à Quimper avec une seule chambre pour ses gamins quand ils viennent, ou 2 chambres, ben, c'est pas possible. Il n'y a pas de marché de l'échelle à Paris. Donc on n'a pas encore compris cette mobilité générationnelle, notamment dans le domaine du social, qui est une ressource énorme pour les territoires, parce qu'évidemment, si on doit traiter à peu près ça un emploi, enfin, c'est à peu près ça, à peu près ça un ratio. Donc c'est quand même, il faut penser le tourisme aussi par rapport à ce phénomène de la retraite et à la mobilité des retraités dans le territoire, évidemment, parce que leur imaginaire de la retraite, maintenant, c'est des longues vacances. Donc au fond, on se représente, et ce qu'il envoie des retraités, on se représente la retraite, comme au fond des vacances qui vont durer 20 ans. Et donc, si on ne déplace pas au même endroit, on n'a pas les mêmes pratiques, etc. Et je pense que l'économie de la retraite doit être complètement intégrée à la pratique touristique, en termes de levier de développement. Bon, excusez-moi, madame.
Oui, moi, j'ai deux questions. La première touche aux moyens d'économie.
N'ayez pas peur de parler fort.
C'est ma voix naturelle.
Excusez-moi.
Ma première question porte sur les moyens des collectivités, parce que votre exposé montre bien que le tourisme, c'est une compétence qui a besoin d'être partagée par tous. Il y a des inflexions nationales, mais il y a aussi, comme vous disiez, par rapport à la loi NOTRe, le rôle des collectivités importantes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de communes touristiques qui se trouvent dans des situations de population qui doublent, voire qui triplent sur certaines périodes, qui ont des réseaux d'eau qui sont complètement dégradés, qui ont des réseaux, tous les services publics qui ne sont pas forcément adaptés. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'avenir pour mieux accompagner les collectivités sur ces questions-là qui sont quand même très, très concrètes mais très pratiques. Sur la Caisse des dépôts, j'avais lu des dépêches sur la rénovation des résidences de tourisme et des résidences de ski qui vieillissent. Je trouvais ça vachement intéressant parce qu'il y a beaucoup d'hébergements qui vieillissent. Bon, je sais que sur la DGF, par exemple, elle est bonifiée pour certaines communes touristiques. Et puis, du coup, on a les moyens, via cette DGF bonifiée, d'avoir des cadres qui sont mieux payés, d'attirer des cadres dans les communes touristiques. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment on pourrait faire mieux avec votre expérience? Moi, j'aimerais, enfin, c'est vraiment des questions qui m'intéressent, sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est comment on peut faire justement pour que plus de Français partent en vacances. Parce que moi, c'est quelque chose que je vois surtout depuis que je suis maman, qui me choque énormément. C'est finalement de voir dans l'école de mon fils, je parle beaucoup avec les autres parents, avec les gamins, de voir des parents, ah nous on était dans la maison du Morvan, machin, mon fils a fait de l'équitation, il a fait ci, il a fait ça, et je vois d'autres parents. Et vraiment c'est incroyable les écarts qui existent là-dessus, dont les gamins passent toutes leurs vacances au centre de loisirs, entre quatre murs, alors ok, on leur organise des ateliers macramé et une ou deux sorties en quart à Vincennes, mais ils passent toutes leurs vacances entre quatre murs, et moi j'ai le sentiment que c'est une des plus grandes inégalités aujourd'hui, et que ça nourrit quand même une perte d'imaginaire, de possibilités pour les enfants, que beaucoup de liens se détruisent à travers ce manque de vacances. Vous en parliez sur les couples ce matin, moi je pense vraiment que les couples qui divorcent, c'est aussi des couples qui ne peuvent pas partir en vacances et s'offrir autre chose. Donc, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'on va aller dans une société vers le droit au tourisme pour tous, ou, je sais pas, vous parliez de l'agence des chèques vacances, de mon point de vue, c'est pas une très grande réussite, donc désolée si je vais avec les gens ici. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, comment on peut porter ça pour l'avenir avec votre expérience?
Donc sur le premier, la première question, donc, effectivement, bon, je disais qu'il y a beaucoup de territoires qui effectivement, avaient des potentialités de développement touristique, mais la question de la capacité de charge est importante. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il peut y avoir parfois des effets déstructurants qui vont être plus forts que les bénéfices. Donc nous, à Tour France, on a construit un petit outil qui permet effectivement d'accompagner les réflexions de tous les territoires, y compris les plus petits, les plus modestes, pour se poser des bonnes questions, essayer de réfléchir un peu à la bonne échelle, géo-temporelle. Donc ça s'appelle ADN, vous allez sur notre site et vous aurez peut-être sur le thème à chacun son histoire touristique. Alors ensuite, sur effectivement le départ en vacances, bon, il y a différentes politiques qui sont complémentaires, qui sont effectivement des politiques d'accompagnement économique, d'accompagnement culturel aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de non-départs qui sont liés à des personnes qui sont tellement fragiles qu'elles ont du mal à imaginer ou que ça leur fait peur de partir en vacances. Donc ça, il y a plein d'acteurs qui sont mobilisés. Vous avez également l'ANCV qui a le mérite d'exister. D'ailleurs, en fait, cette année, les 80 ans des congés payés, donc il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été faites dans ce domaine. De plus en plus, il y a un travail qui est fait avec les comités d'entreprise. Donc, on voit aussi que l'action touristique des comités d'entreprise évolue avec de plus en plus d'individualisation des outils qui sont proposés, plus de consommation de loisirs et culturels et moins d'organisation des congés. Il y a aussi un enjeu qui est important, qui est lié au fait que il y a environ 300 000 lits, un peu moins de 170 000 lits liés au parc du tourisme social associatif. Les VVF, vous connaissez tout ça. Bon, sauf que je suis administrateur de VVF, du personnel, parce que effectivement, j'en parle, mais je m'en garde aussi, comme il y a l'autre. Et pendant nombreuses années, on a vu effectivement progressivement un peu partir ces lits touristiques qui permettaient d'organiser des vacances dans un cadre collectif, justement, et d'organiser un peu de la mixité aussi des populations. Donc il y a une prise de conscience il y a 4-5 ans, avec la création aujourd'hui d'un fonds de financement qui permet donc à ces acteurs de cette filière, l'économie sociale et solidaire, de pouvoir mieux restructurer leur parc de village de vacances. Il s'agit effectivement d'organiser des vacances, mais pas d'avoir des colis insalubres pour ces vacances. Donc. Or, les rentabilités, les modèles économiques font qu'effectivement, il faut trouver des financements avec des fonds patients pour permettre la restructuration du patrimoine immobilier similaire de vacances. D'ailleurs, donc nous on gère le dispositif ingénierie et le fonds thématique d'investissement qui a été créé, il est cofinancé par la Caisse de dépôt, par l'NCV et le Crédit Coopératif et l'Arcantec. Je ne sais pas si l'Arcantec peut entrer dedans, mais en tout cas, il y a les trois, l'Arcantec, l'NCV et la Caisse de dépôt. C'est un fonds qui a vocation effectivement à faciliter la rénovation de tous ces villages de vacances. Il y a aussi des initiatives qui sont prises à l'échelle des régions pour stimuler les colonies de vacances. C'est un enjeu important pour le ski. Donc la région Rhône-Alpes-Auvergne a mis en place des initiatives pour un peu stimuler aussi, parce que là aussi on voyait année après année une perte de... Je ne sais pas comment il évoluera les choses, mais simplement, bon, 30% de chiffrement en moins sur une année, ça fait la une d'un 20 heures. 5% de taux d'évolution en moins, mais les départs en vacances dépensées, ça ne l'aide pas. Donc il y a un enjeu collectif, effectivement, pour... aussi parler davantage de cette thématique.
C'est-à-dire qu'on a vécu une période bizarre où on a eu le gouvernement de gauche qui s'est beaucoup intéressé aux touristes internationaux, ce que vous disiez, qui était une excellente chose, c'est qu'il y avait la première fois qu'il y a un gouvernement de gauche qui s'intéressait plus aux touristes dépensés. Alors, historiquement, c'était quand même plutôt la gauche qui portait le départ en vacances. Et la droite qui recevait, on disait toujours la gauche fait partir et la droite reçoit. Est-ce que les régions touristiques basculent régulièrement vers la droite, y compris parce que ce sont des petites entreprises, etc. Ça développe une culture politique très différente. Et quand on fait des micro-analyses politiques, même dans des zones qui ne sont pas d'extrême droite, comme en Bretagne, quand on fait des focales sur les communes hyper touristiques, on a évidemment des évolutions politiques très particulières. Et alors, c'est vrai qu'au fond, il y a trois groupes de consommateurs touristiques. Il y a les 25% dont vous avez parlé qui ne parlent pas, qui ne partent pas, qui représentent les gens les plus fracturés, les femmes seules avec enfants, un taux de départ à peu près 30%, les gens qui sont en emploi indépendant, qui n'ont pas de famille. Parce qu'au fond, ce qu'on a su faire depuis la guerre, c'est faire partir la France organisée. Alors les professions libérales, bien entendu, les fonctionnaires, les comités d'entreprise, les grandes entreprises, etc. Et puis, on est arrivé il y a 15-20 ans, on l'a bien montré dans les statistiques, au fond, on a fait partir tous ces gens-là, qui sont les gens, on va dire, plus ou moins protégés, organisés. Et puis, restent les autres, ben, les couples instables, les gens qui sont dans les petites entreprises et qui n'ont pas des contrats déterminés, etc. Et ceux-là, on a arrêté de s'en occuper vraiment, parce qu'effectivement, on est face à un nouveau problème, c'est-à-dire comment faire partir des gens qui ne sont pas forcément protégés, donc leur choix n'est pas forcément de partir en vacances alors qu'ils sont instables en termes de vie privée ou en termes de salariat, et puis s'ils ont trois sous le côté, ils ne vont pas forcément les mettre en vacances. C'est comme ça en fait qu'il s'est fait le blocage. Je crois que la deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'on a arrêté de réfléchir vraiment au départ de la jeunesse. Parce que, si vous voulez, les colonies de vacances, ça a représenté une certaine époque, le départ par entreprise, une autre, mais aujourd'hui, moi j'ai travaillé aussi à l'EDF à une époque, je veux dire, les gens ont plus envie des gaziers ont plus envie de partir en vacances avec les gaziers, quoi. Donc la culture des départ en vacances par métier, qui s'était beaucoup faite, c'est beaucoup déstructuré. Parce que les pauvres ont même envie de vacances que les riches, c'est con, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, ils ont envie d'aller où ils veulent, avec leurs copains, de choisir, et d'aller en tribu familiale, etc. Donc les demandes ont beaucoup évolué, quoi. Parce qu'au fond, le touriste est devenu le meilleur organisateur de ses propres vacances. Alors que jusqu'aux années 80, en gros, il y avait besoin de professionnels. Maintenant, les gens sont compétents pour organiser leurs vacances parce qu'ils ont voyagé. Et Internet qui arrive et qui leur offre effectivement des outils techniques complètement nouveaux. Voilà. Donc au fond, on ne s'est plus occupé de la démocratisation du départ des jeunes. Moi, je sais que je plaide depuis longtemps pour la généralisation du voyage en France à 16 ans comme un moyen d'intégration dans la société moderne. Je considère, je l'ai dit tout à l'heure, que dans les quatre entrées d'intégration, tu vois, il y a le voyage. Il y a le voyage, l'amour, le salarié et les études. Il faut que gagner un peu sa vie, etc. Et là-dessus, on est pas bon. Donc on a un vrai problème, je crois, y compris parce que c'est en initiant la jeunesse qu'on arrive à, effectivement, après en faire des consommateurs. Et la région de Toulouse a toujours été une région très en avance, par exemple, parce que depuis très longtemps, parce que le frère Trigano était conseiller régional, ils ont favorisé le fait que tous les jeunes lycéens partent 15 jours, au moins une fois, avant le bac. L'État n'est pas responsable que les gens partent en vacances. L'État peut être responsable qu'on apprenne aux jeunes la mobilité, le voyage, la prise de risque que représente le fait de ne pas être chez soi, le fait de prendre un billet de train en le payant, etc. Donc il y a un certain nombre d'activités qui nécessitent une forme d'acculturation. Là, l'État a une forme de responsabilité qui n'a pas du tout d'enjeu. Il faut dire les choses là-dessus, compliment. Alors, dans les pays, j'ajouterai deux choses. La retraite, j'en ai déjà parlé. Je crois que dans le tourisme, il y a tout le fait aussi qu'on vend des produits français à des gens qui ont résisté à la faim. C'est-à-dire qu'un touriste, c'est aussi un client. Quand vous regardez le succès de L'Oréal, qui est en train de travailler dans le monde entier, vous ne pouvez pas séparer l'imaginaire de la France comme lieu effectivement festif et l'idée que le corps d'une femme doit être, comme il disait ce matin, travailler avec des cosmétiques du cosmos, qui soit effectivement français. Et que donc les marques, les produits qui se vendent à l'étranger sont aussi en corrélation avec l'attractivité des pays. Et donc l'économie touristique, ce n'est pas seulement les gens qui viennent chez nous, c'est aussi les produits qui sont consommés par des gens, ceux qui rêvent de la France, enfin de la France ou d'Italie ou de la Chine, je veux dire, on n'est pas les seuls à faire rêver, mais il se trouve que comme on était leader sur le marché, on était aussi leader sur un certain nombre de marchés de produits culturels ou de produits liés à l'art de vivre, à l'élégance, etc., au luxe, et que ces éléments sont inséparables les uns des autres. Et c'est important parce que l'économie touristique, en termes de business, elle intègre l'ensemble de ces éléments. Messieurs, là c'est trois hommes.
Chez Léori de la CFDT, Centre Val de Loire, je voulais revenir sur deux aspects. J'ai cru entendre un plaidoyer pour des politiques publiques sur le tourisme beaucoup plus incisives. Donc vous avez souligné la loi NOTRe. Donc les conseils régionaux sont en train d'élaborer les schémas régionaux de développement touristique. Mais les parlementaires ont malgré tout décidé dans une loi qui était censée clarifier les compétences, décider que ça serait une compétence partagée. Donc dans notre région, les premiers débats ont commencé à avoir lieu, quand même pas très très simple. Alors, si on fait le lien avec le débat de ce matin, on délibère beaucoup. C'est intéressant, les gens peuvent se parler entre eux, donc c'est un point positif. La question, c'est effectivement, est-ce que les décisions, on va les prendre, à un moment donné, sur ces politiques-là, dans un contexte où, quand même, les collectivités ont globalement une baisse de leurs moyens, et donc des choix difficiles à faire. Donc, avoir votre vision là-dessus. Et deuxième aspect, c'est sur la question du numérique, sur l'aspect de réservation, choix de destination, etc. Est-ce que des collectivités qui ne sont pas des destinations naturelles, entre guillemets, de départ, n'auraient pas intérêt à s'approprier un moyen numérique, alors je vais essayer de m'expliquer autrement, de ne pas faire simplement confiance au marché sur le numérique, puisque le numérique va concentrer en fait les lieux de destination sur ceux qui sont déjà les plus attractifs. Donc sur une région comme la nôtre, qui n'est pas un territoire ni de montagne ni de mer, Centre-Val de Loire.
Ah oui.
Naturellement, les lieux d'hôtel, etc., de séjour, la promotion n'est pas autour de cette région-là. Donc si on laisse faire le marché, on peut penser qu'il y aura un faible écho numérique. Est-ce qu'il n'y a pas besoin à un moment donné de créer un outil public dans ces régions-là, concernées par certaines, pour mettre en lien tous les acteurs du tourisme? Pour un exemple, hein, nous on a la plus belle région de France, forcément, ça a été dit tout à l'heure. On a un patrimoine culturel fantastique, on a des vignobles incroyables, des restaurants sensationnels. Mais tout ça, ça ne fait pas un séjour, quoi. Et ça, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un outil numérique qui mette tout ça en lien et qui puisse permettre de faire la promotion d'un territoire? Autrement, alors je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais sur les sites entre guillemets marchands, on ne va pas avoir ça sur une valorisation d'une région comme la nôtre.
Les différentes questions qui restent.
Quatre. Alors, demandez-leur, on peut vous arrêter.
On fait une pause, après c'est ça, avant un débat général, c'est ça le programme, madame Sandra.
Non, c'est ça. Non, il faut qu'on fasse une pause à un moment, c'est sûr.
On prend les quatre questions, vous répondez, on fait une pause, et après on a le débat général, et après vous allez venir une élection, je ne sais pas quel modèle démocratique vous avez, il y a des personnes que vous ne connaissez pas, mais bon, c'est
Bernard Garin, je vais me présenter ce fois-ci comme un breton et un malouin d'adoption. D'abord, une première observation générale et après une question. La première observation, c'est que je trouve que le tourisme n'est pas aujourd'hui l'objet d'un débat politique comme on pourrait s'y attendre. C'est-à-dire que c'était un débat avec les congés payés au moment du Front populaire. Aujourd'hui, alors, je me suis dit que ça, du PIB, j'entends pas les candidats à l'élection présidentielle en faire un enjeu de débat politique. Pour revenir à ma question sur Saint-Malo, donc, je suis d'adoption, par exemple, c'est une des villes qui a connu la diminution démographique la plus importante, contrairement à toutes les villes du Grand Ouest. C'est-à-dire qu'elle est passée de 52 000 à 47 000 habitants entre deux recensements.
Saint-Brieuc, c'est pareil.
Comment ?
Saint-Brieuc, c'est pareil.
Oui, mais Saint-Brieuc n'avait pas une vocation touristique aussi affermée. Saint-Malo, c'est un des plus beaux endroits du monde. Par le Val de Loire et puis le Mont-Saint-Michel, c'est dans la folie de Couénan, la ville de Normandie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, à force de développer le tourisme, l'accueil de résidences secondaires, de gens riches, qui ont des moyens, des revenus, dont je fais partie, ça s'est traduit par une telle augmentation du logement que la population jeune est partie de Saint-Malo. Et je trouve qu'en termes d'attractivité, quand on dit que le tourisme développe l'attractivité d'une ville, Saint-Malo n'est pas forcément bon.
Oui, c'est une question. Messieurs.
Allez,
vous êtes deux, là. On fait ça et puis on apprend ça. Allez-y.
J'ai vraiment une réaction du département des territoires de Lozère, d'origine à Bourges. Donc, juste une question tourisme et aménagement, puisque historiquement, on a quand même développé un tourisme de masse avec des appareils aussi assez développés, notamment pour le tourisme saisonnier, qu'il soit hivernal ou estival. Alors, s'agissant du tourisme hivernal, il n'échappe à personne qu'il y a quand même des gros changements en matière de climat qui interviennent. Et donc, je me pose la question, quelles sont les perspectives qui se présentent pour ces sites dont le niveau d'aménagement va être de plus en plus réduit? Alors, je parle évidemment de la montagne, mais probablement à terme de la haute montagne. Et deuxième point, tourisme estival. Donc, un exemple, par exemple, l'ex dans le bord de avec le développement des productions que j'ai mis sur les années 60, de la période touristique vraiment d'un volontariste, dont je ne sais pas ce qu'on en fait ou ce qu'on veut en faire aujourd'hui, dans la mesure où il semble que le tourisme de masse ne soit plus vraiment celui qu'on veut développer, encore qu'on veuille rester sur des niveaux relativement hauts, mais je ne sais pas comment on va faire ça, et aussi. D'autant que sur ces régions, on a quand même, outre le renchérissement du foncier, un certain nombre de sujets liés à l'approvisionnement en eau, liés à la gestion des risques, qui se manifestent de manière assez importante, qui ne vont faire que s'accentuer. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec nos grosses stations touristiques, hivernales et estivales, à l'avenir, et surtout, que vont faire les collectivités qui ont probablement toutes encore des emprunts pour.
Rappelle-t-on que les groupes La Poste, alors né à Paris, d'une mère corse et d'un papa bourguignon. Voilà. J'ai trois questions très simples. Il y a un tourisme dont on n'a pas parlé, qui est le tourisme médical.
Oui, c'est très important.
Deux, c'était l'impact du travail du dimanche sur les zones touristiques.
Juste là-dessus, c'est un des points où Laurent Fabius a fait un très bon boulot et on a commencé à se rendre compte que je crois qu'il y a 76 milliards au niveau mondial sur le tourisme médical, on doit être à 136 millions, donc on s'est donné l'objectif d'être à 2 milliards et on a maintenant dans nos grands hôpitaux des services qui s'occupent de ça. Mais on est nul, quoi, parce qu'on a en France toujours considéré que les hôpitaux étaient les poids des Français et qu'on n'allait pas les remplir avec des chèques à moustache. Donc, du coup, on n'a pas fait le boulot pour comprendre qu'il y avait effectivement une économie peut-être intelligente à avoir financé notamment les hôpitaux.
Et troisième point très rapide, c'est Non, c'est la filière de formation autour des métiers touristiques. Là aussi, donc, c'est un point qui n'a plus de... Enfin, voilà, j'ai beaucoup de choses à vous évoquer, et qui me semblait important de pouvoir partager, savoir si c'était important, mais est-ce que c'est toujours aussi important?
Oui, alors, dans les différentes questions, donc, sur l'organisation, donc, je trouve qu'on crée des meilleures solidarités pour lutter contre un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est la baisse des recettes et des ressources de financement. Donc, je pense que ça va amener peut-être à faire du bon sens et l'articulation. J'aurais tendance à dire qu'il faut de plus en plus dissocier ce que j'appelle le front office, c'est-à-dire la capacité à s'interfacer avec le marché, du back office, qui est la structuration et le développement de l'offre. Nous, en France, on veut superposer les deux échelles de travail. C'est pas possible. Et donc, la création des grandes régions va peut-être permettre effectivement de faire un peu de réactivation sur les marques qu'on voit derrière le marché, et puis derrière de régler des nouveaux contrats entre la région, les métropoles, les interfaces de conscience, les départements, pour tout ce qui concerne la structuration du back-office, la qualité, le développement, l'observation, l'investissement. Bon, sur le numérique, je pense que même Accor, qui est puissant, a renoncé à être le concurrent de Booking. Simplement, la position, c'est se dire qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'influence. Donc, c'est la qualité de la relation client. Donc, effectivement, vous avez un touriste qui va peut-être venir par un moteur de recherche qui ne sera pas maîtrisé par les Français la première fois sur un site, mais le coup d'après, il faut qu'il vienne en direct pour que la valeur ajoutée soit captée directement par l'opérateur touristique. Donc, les conseils qu'on donne aux collectivités, c'est plutôt d'accompagner effectivement les opérateurs touristiques dans cette stratégie de compréhension un peu de la relation client et de l'influence, plutôt que d'essayer de structurer des plateformes numériques de façon qu'elles soient invisibles, parce que derrière, il n'y aura pas la puissance promotionnelle par rapport aux grands acteurs qui sont dans une logique de concentration à vitesse grand V. Donc voilà pour les questions. Il y avait une autre question sur le tourisme médical. Bon, la réponse était claire, je la partage. On est plutôt souvent dans le focus dans ce domaine. Je dirais que la destination qui est la plus en pointe, c'est Marseille, c'est l'hôpital de Marseille, qui a commencé à travailler avec nous pour essayer d'un peu identifier les cibles des marchés. Bon, sur la formation, je laisserai Jean Viard développer, mais c'est vrai qu'on est très faible. Je ne sais pas s'il y a une chaire touristique, on est très faible pour un secteur qui pèse 2% du PIB, donc tout ce qui peut être... les connexions avec la recherche en général, le fait de la développer. On a fait un partenariat avec la chaire d'attractivité d'Aix-en-Provence, enfin toutes les cellules un peu tête pensante, recherche, sont utiles et sont les bienvenues, et il faut effectivement se renforcer. En matière de formation, il y a beaucoup de dispersion. À Tout France, on essaye de développer aussi les formations en ligne, donc on a fait un MOOC. Permettre la diffusion de connaissances sur l'accueil des clientèles internationales et après 6 mois de négociations et mérites, c'est pris en charge par les organismes de formation continue, FAFI, la JOS PME, donc ça coûte 100 euros par formé pour une soixantaine d'heures en ligne sur les enjeux du développement touristique. Et c'est pas suffisamment connu, et il n'y a que pour l'instant 2000 opérateurs qu'on en bénéficie, donc il faut que ça soit diffusé plus largement. Sur la question relative à Saint-Malo, vous avez raison, je pense que c'est pour ça que je dis, quand on tout à l'heure faisait référence à EDEL, il faut structurer le développement touristique et effectivement intégrer le fait touristique dans toutes ses dimensions, y compris sa dimension territoriale. Et le tourisme, ça se pense aussi au niveau des spots, des PMU, des voies de transport. Mais rassurez-vous, cette dimension est en train d'être de plus en plus intégrée, parce qu'il y a un phénomène qui exacerbe les risques que vous avez pointés du doigt, c'est Airbnb. Airbnb qui effectivement augmente artificiellement les loyers et derrière exclut effectivement du logement un certain nombre de personnes. Hier, il y avait un débat là-dessus avec des élus parisiens. Et c'est un débat qui, effectivement, est en train de se propager à l'UQAM Grand Est avec des réactions assez, assez radicales. Certaines destinations, Barcelone, Berlin, Lisbonne, est en train, effectivement, à passer la crise avec le tourisme, etc. Mais aujourd'hui, voit un peu ce que vous avez compris sur Saint-Malo. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de s'intégrer. Mais je pense que vraiment, si effectivement le tourisme peut être un vecteur d'attractivité, il peut être aussi un vecteur de déstructuration, des équilibres économiques, des équilibres territoriaux, des effets effectivement sur les réseaux. Donc ça, ça doit être intégré et ça se pense aussi en amont et de façon globale. Je ne sais pas s'il a répondu à toutes les questions, mais voilà. Ah oui, sur la réhabilitation. Donc la réhabilitation, vous avez raison, hein, c'est un enjeu qui concerne aussi bien la montagne que le littoral. Alors bon, là, donc il y a eu des tentatives qui ont été mises en place avec les ORIL, les opérations d'occupation d'immobilier de loisirs, qui étaient un peu l'équivalent des OPH. Vous savez que les opérations programmées d'amélioration d'habitat dans l'urbain, ça a été globalement un échec. Parce qu'on a, globalement, toutes les politiques qui ont été mises en place se confronter au droit de l'habitat, de la propriété. Le propriétaire, bon, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. On ne va pas, prendre un arrêté de péril pour le forcer à acheter une télé avec un plat ou rénover son appartement. Donc là, on a plutôt une approche aujourd'hui qui passe par une action auprès des copropriétés. Donc, à la fois avec l'expression d'un volontarisme politique des collectivités, avec une réflexion sur la restructuration des espaces publics, un travail encore des copropriétés pour les amener à être aussi des leviers d'impulsion, et puis proposer un kit de service pour les propriétaires, pour les aider à passer le pas, à rénover, peut-être à revendre un peu leur appartement si nécessaire. Donc là, il y a différents outils. Alors il y a tout ce qui concerne comment réassurer le propriétaire qui est à distance sur les travaux. Donc là, il y a des outils qui sont mis en place, notamment dans les Pyrénées, à Finiski, pour ceux qui connaissent, qui donnent des garanties sur le fait que les artisans qui vont travailler vont faire les choses correctement en termes de délai, en termes de bureaucratie de déplacement, etc. Donc ça rassure un peu le propriétaire qui a 800 bornes et qui ne veut pas être embêté par les questions des travaux. Il y a également des outils un peu plus radicaux avec des foncières qui ont été créées dans les Alpes. Tout là, la Caisse des dépôts, la Compagnie des Alpes, un opérateur d'automobilité mécanique, hein, qui ont créé des foncières, qui rachètent des biens, qui les rénovent et qui les remettent sur le marché avec associé un bail sur le modèle des régions de tourisme. Donc ça commence un peu à fonctionner. Enfin, globalement, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a qu'un arsenal d'outils qui doivent être menés en complémentarité, mais c'est un vrai enjeu qui concerne spécifiquement les stations de montagne où il n'y a pas beaucoup d'espace pour construire d'autres lits et le littoral. Voilà. Je suis vraiment désolé, mais je voulais vous quitter parce que j'ai un autre engagement.
Merci. 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 Merci.